Bonjour à tous. Alors, je me demandais si vous aimiez les mystères et les énigmes. Pas forcément, je sais que ce n'est pas le truc de mon épouse, mais ouais, moi j'aime bien les mystères et les énigmes. Et cette semaine, avec ma fille Elisabeth, on a échangé par WhatsApp, et puis elle m'envoie des énigmes qui lui sont proposées, puis on essaye de les résoudre ensemble. Hier, on a passé la journée, toute la journée, à essayer de réfléchir et trouver la solution d'une énigme. Et moi, c'est quelque chose qui... C'est un jeu de l'esprit qui me plaît bien. Et donc, il y a des situations, les mystères, qui portent en elles quelque chose d'insondable, d'incompréhensible, qui mettent souvent notre raison en échec, nos sens les plus affûtés aussi, et parfois toute notre mobilisation intellectuelle en difficulté. Moi, j'aime bien ça. Et quand j'étais adolescent, j'étais très fan d'un héros qui était spécialiste de ça, c'était Arsène Lupin. Alors, Arsène Lupin, tout le monde connaît, mais pour nous autres, normands et havrais, ça nous plaît d'autant plus que les aventures d'Arsène Lupin, pour la plupart, sont nées en Normandie, du côté d'Étretat, à 20 km du Havre. Et donc, il y a plein d'endroits où il y a l'aiguille creuse d'Étretat. On dit creuse parce que c'était... selon Arsène Lupin et Maurice Leblanc, son auteur, l'endroit où les rois de France avaient caché leurs trésors, il fallait trouver l'entrée du passage qui conduisait, etc. Il y a plein d'énigmes autour d'Arsène Lupin. Et il y a une histoire qui m'est restée. J'ai lu ça il y a presque 50 ans. Une histoire qui se passe dans un château, le château de Thibermesnil, à côté de, pas très loin d'Étretat. Et Maurice Leblanc racontait qu'un trésor avait été caché à proximité du château de Thibermesnil par Roland, le premier duc de Normandie. Il y avait un souterrain qui devait partir du château. Et c'était un château où Henri IV avait passé une nuit en passant, comme Louis XVI. Et donc, dans ce château-là, il y avait un souterrain avec... une énigme qui donnait accès à ce souterrain. Et pour s'en souvenir, Henri IV avait laissé une trace qui se trouvait dans un vieux manuscrit. C'est l'histoire de Maurice Leblanc. Il disait il y avait une phrase qui voulait donner des indications pour trouver. Et cette indication, je m'en souviens encore aujourd'hui, c'était... La hache tournoie dans l'air qui vibre et l'aile s'ouvre pour conduire jusqu'à Dieu. De mémoire. La hache tournoie dans l'air qui vibre et l'aile s'ouvre pour conduire jusqu'à Dieu. Et Arsène Lupin, qui était caché parmi des invités du propriétaire de ce château, on lui a expliqué qu'il y avait un grand détective anglais qui allait venir pour résoudre l'énigme. Maurice Leblanc avait surnommé son héros anglais Herlock Sholmès. Ça vous dit quelque chose? L'adversaire historique d'Arsène Lupin. Et un des invités était Arsène Lupin. Et il y en a un de ses amis qui dit, si t'es Arsène Lupin, si jamais tu l'étais, tu as intérêt à te dépêcher pour trouver le trésor parce que Herlock Sholmès arrive. Et en fait, Arsène Lupin a déchiffré l'énigme, le mystère. En fait, la hache qui tournoie au-dessus de la cheminée, il y avait le nom du château de Thibermesnil avec le blason. Et le hache de Thibermesnil tournait. Dans l'air de Thibermesnil, le air qui bougeait, vibrait, et le L de Thibermesnil s'ouvrait et donnait accès au passage secret. Waouh ! Moi, quand j'avais 15 ans, quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça passionnant. J'aime les mystères. Mais savez-vous qu'il y a aussi, dans l'Écriture, dans la Bible, des mystères et parfois des formes d'énigmes qui nous sont proposées pour parler des choses de Dieu. Et parfois, ce sont des énigmes qui nous semblent mystérieuses, incompréhensibles. Et ce matin, j'avais au moins le désir de vous faire découvrir au moins 2 à 3 énigmes qui se trouvent dans l'Écriture et qui nous parlent des choses de Dieu. Je propose non seulement de découvrir ces énigmes, mais aussi d'en découvrir le sens caché, parce que sinon, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Car comme le disait l'apôtre Paul aux chrétiens de Colosse, il leur disait « C'est d'elle dont j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. » Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Parce que les mystères de Dieu dans l'Écriture, ce n'est pas pour son plaisir que Dieu les y a mis, mais afin que ceux qui sont équipés du Saint-Esprit puissent percer un mystère que les païens ne peuvent pas comprendre. C'est une volonté de Dieu de ne pas laisser ces mystères cachés, mais de les révéler à ses enfants, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation et qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Plus de trésors en Christ que dans l'aiguille creuse d'Étretat. Je vous l'assure. Je suis allé à Étretat, j'ai cherché. Il y a une petite roche avec une fenêtre qui a été creusée et Maurice Leblanc disait « Un des mystères se trouve là ». Et quand vous entrez dans cette roche-là, cette fenêtre donne pile poil sur l'aiguille d'Étretat. Donc j'ai commencé le chemin, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé l'entrée du souterrain. Alors, est-ce que vous êtes prêt à ce que la hache tournoie dans l'air qui vibre et que l'aile souffle pour aller jusqu'à Dieu? Est-ce que vous êtes prêt à découvrir des mystères qui se trouvent dans l'Écriture et dont on ne sait pas trop, y compris les païens, ce que ça veut dire? Alors, si vous êtes prêt, je vais vous inviter à découvrir ce qu'on appelle des apax legomenon. Tout le monde sait ce que c'est, hein? Les apax legomenon. Non? Non? Même Michel? En fait, les apax legomenon, c'est un terme grec qui se traduit par « ça n'a été écrit qu'une seule fois ». Apax legomenon, c'est quelque chose qui n'a été écrit, un mot qui n'a été écrit qu'une seule fois dans la Bible. Mais ça peut être aussi dans la littérature profane. Donc un apax legomenon, c'est quelque chose une seule fois dans la Bible. Vous pouvez m'en citer un? Quelque chose qui n'a été écrit qu'une seule fois dans la Bible et qui est très mystérieux. Melchisédek, je l'ai retenu comme apax legomenon parce que c'est vrai qu'il apparaît une seule fois. Après, il est parlé de lui, mais c'est vrai, on peut considérer que Melchisédek est un apax legomenon, c'est-à-dire qu'il est cité une seule fois comme une personne qui rencontre un roi de justice et de paix qui rencontre Abraham, puis après, il disparaît. Mais ce qui est intéressant dans les apax legomenon de la Bible, c'est qu'ils sont tous étroitement liés avec la question de la rédemption et du salut. Ce n'est pas des mystères ou des choses mystérieuses qui vous sont proposées pour qu'on puisse découvrir le sens de la vie. Non, c'est qu'est-ce qu'il en est de la rédemption et du rétablissement de la relation entre Dieu et l'homme. Et Melchisédek, c'est en ce sens-là, effectivement, un apax legomenon, c'est-à-dire quelqu'un qui apparaît, qui disparaît, mais roi de justice, roi de paix, roi de Salem. Et l'Épître aux Hébreux va donner le sens et l'interprétation de ce texte de la Genèse, de ce personnage. On ne sait pas s'il est historique, pas historique, mais en tout cas, il a un sens en lien avec la rédemption. Un autre apax legomenon? Ah, Ah, voilà. Je suis content parce que j'ai quand même pris le temps de prêcher un dimanche sur Azazel. On y reviendra. Azazel, oui. Ce nom d'un démon, semble-t-il, qui est un démon du désert, vers lequel est envoyé le bouc porteur du péché d'Israël. Rédemption, à nouveau. C'est-à-dire que c'est le bouc émissaire qui est chargé du péché, il est envoyé vers Azazel. Un autre à Pax Legomenon. Vous voyez, vous en avez trouvé deux déjà. Qui? Non, pas tout à fait. Alors là, je ne sais pas où est-ce que c'est. Ah oui, oui, oui. Alors je ne sais pas. Oui, peut-être, on peut le considérer, oui, effectivement. Il faudrait que je creuse, que je vérifie. Ah oui, tout à fait. Quelque chose d'autre. Dans la Genèse, à nouveau. Le Shiloh. Et le bâton de commandement ne s'éloignera pas d'entre les pieds du Shiloh. Image messianique est donc lié à la rédemption. Et puis, il y a quelque chose que j'ai mis avec, mais que je vous présenterai, c'est l'Urim et le Thummim, dont il est parlé et dont on sait, c'est un mystère. L'Urim et le Thummim, c'est vraiment quelque chose, on ne sait pas trop sous quelle forme, même si Flavius Joseph a donné quelques explications. Alors, voilà, des Apax Legomenon, et concernant ces mystères que Dieu nous a laissés, l'Esprit Saint a pour mission de nous conduire dans la vérité et d'avoir une lecture un peu croisée de ces choses pour mieux les comprendre. Le point commun, disais-je, de ces mystères, c'est qu'ils sont tous en référence à l'œuvre de la rédemption. Parce que il faut être clair dans notre manière de comprendre et de lire l'Écriture. Le centre de l'histoire des hommes, c'est l'œuvre de la rédemption accomplie par Jésus-Christ à la croix. Le centre de l'histoire de l'humanité, c'est cela. Certains diront que ce qui a changé l'humanité, c'est l'invention de la roue, qui a simplifié le transport et les échanges économiques. Voilà. C'est l'invention aussi de l'imprimerie qui a facilité le partage et la diffusion des idées et des savoirs. C'est la découverte de l'Amérique qui a bouleversé la connaissance du monde connu. C'est l'homme qui a posé le pied sur la Lune et lui a ouvert la porte des étoiles et des mondes interstellaires. On en parle beaucoup en ce moment avec l'éventualité d'aller voyager sur Mars. Moi, j'osais dire que ce que l'Écriture nous révèle, c'est que le centre de l'histoire des hommes, c'est ce que nous dit l'Évangile. Depuis la création, l'homme s'est séparé de Dieu, il se trouvait dans l'incapacité de rétablir sa relation avec Dieu, et le Fils de Dieu s'est incarné et a accepté de payer le prix du péché en mourant volontairement sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette œuvre de la rédemption est au centre de l'histoire de l'humanité. Je crois que c'est Buzz Aldrin. Le deuxième, deuxième astronaute qui a mis le pied sur la Lune, c'est Aldrin. C'est ça, non? Oui, il me semble. Hein. C'est lui qui a dit, le vrai miracle, ce n'est pas que l'homme ait posé le pied sur la Lune. Le vrai miracle, c'est que Dieu ait posé le pied sur la Terre. La rédemption est au centre de notre histoire. Alors, le premier Apax Legomenon dont je parle, c'est-à-dire qui n'est cité qu'une seule fois, et c'était l'objet d'une intervention récente, se trouve dans le livre du Lévitique, au chapitre 16 et au verset 5 jusqu'au verset 10. C'est le moment où Dieu pose le principe du jour du grand pardon, du Yom Kippour. C'est-à-dire de ce sacrifice qui est un sacrifice particulier puisqu'il permet d'effacer les péchés aussi bien que l'on a commis vis-à-vis de Dieu que les péchés qu'on a commis vis-à-vis des hommes, à condition d'en avoir reçu le pardon pour les hommes. Donc il y avait cette condition. Mais c'est le seul sacrifice d'expiation qui est aussi généralisé une fois par an, le jour du Yom Kippour. Et dans le Lévitique, au chapitre 16, verset 5, il est dit que Aaron prendra deux boucs, il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les deux boucs. Quand il est dit jeter le sort, c'est-à-dire qu'il va tirer au sort. un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. C'est-à-dire qu'il y a un bouc qui va être tiré au sort et qui va être destiné à être tué, et un bouc qui va être tiré au sort et qui va être envoyé dans le désert chargé du péché. Vous voyez déjà dans ce texte du Lévitique le fait qu'on est au centre de l'œuvre de la rédemption. Et que ce texte-là, véritablement, de A à Z, est un texte qui est, je dirais, porteur de ce que Christ sera et fera. Il prendra le péché. Donc, toute la symbolique de ces deux boucs qui sont choisis et qui seront l'un tué et l'autre envoyé dans le désert sont une image de Christ. Dieu dit à Aaron, d'abord, fais un sacrifice pour toi. Parce que quelque part, juste avant ce texte-là, Aaron doit faire un sacrifice d'expiation pour lui. Parce que tu ne peux pas faire un sacrifice d'expiation pour le peuple si toi-même tes péchés ne sont pas enlevés. C'est toute la différence entre Aaron, grand sacrificateur, et Jésus. Jésus, il n'a pas eu besoin de faire un sacrifice d'expiation pour lui-même en apportant, je dirais, ce qu'il était et en portant le péché du monde. Il était parfait. Mais Aaron devra faire un sacrifice d'expiation pour lui. Et ensuite, tu choisiras deux boucs. C'est juste avant ce passage du Lévitique. Et quand Moïse est interpellé par Dieu, Dieu lui dit, parle à ton frère Aaron, parce que je veux rétablir mon alliance avec lui. Je veux vraiment qu'il rentre dans un service pour moi, pour représenter en tant que grand sacrificateur l'œuvre de Dieu au milieu du peuple. C'est juste après qu'il ait perdu ses deux fils. Vous vous rappelez ce récit, je crois que c'est au chapitre 10 du Lévitique, où les deux fils qui travaillaient comme membres de la tribu de Lévi, ils servaient dans la tente d'assignation, puis ils ont dit « Oh, on va peut-être pas aller récupérer du feu à l'autel, prenons du feu à l'extérieur, etc. » Et ils sont rentrés dans une démarche qui était injuste. Ils ont négligé la sainteté de Dieu, et donc ils en sont morts. Est-ce que nous aurions continué, nous, à servir Dieu comme l'a fait Aaron, si nous avions perdu nos deux fils à cause de leur désobéissance? Est-ce que nous n'aurions pas eu un temps de révolte, de colère, etc. Mais là, Dieu dit à Aaron, écoute, je veux continuer à vivre et à ce que tu me serves, toi. Et donc, Aaron va rentrer dans cette démarche-là. Moi, je trouve que c'est aussi un message de grâce, parce que ça signifie que Dieu dit à Aaron, malgré les manques, les erreurs de ta famille et de toi-même, de tes ou de vos désobéissances, je veux continuer à travailler avec toi, à ce que tu sois à mon service. Tout à l'heure, on a entendu quelqu'un qui disait, on ne te dénommera plus délaissé, on t'appellera « Mon plaisir est en toi ». C'est dans Ésaïe 62,4. Il y a de la grâce dans le regard de Dieu sur chacune de nos vies. Alors, le premier Apax Legomenon, c'est cette histoire d'Azazel. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que deux boucs sont choisis et tirés au sort. Et si on dit qu'ils sont tirés au sort, ils sont tirés au sort comment? Amstram, gram, piqué, collé, gram. Non. Urim et Thummim. Sur son cœur, il y avait l'Urim et le Thummim. On en parlera tout à l'heure. Mais Aaron a sorti l'Urim et Thummim et il a choisi quel bouc mourrait, quel bouc vivrait. On est au cœur de l'œuvre de la rédemption. La réconciliation avec Dieu se paye au prix de la vie. Et Dieu a pourvu. Dans l'ancienne alliance, c'était un bouc qui mourait. Dans la nouvelle alliance, c'est Christ. Et comme il est dit dans l'Ancien Testament, je viens vers toi avec ce que j'ai et je me donne Est-ce que nous avons conscience que c'est cette exigence de la sainteté de Dieu qui coûte le don de Christ à la croix ? Le jour des expiations, c'est la fête qui marque le rachat du péché du peuple. Je disais que récemment que lorsque c'était le jour du Yom Kippour, les Juifs se saluaient en proclamant simplement cette salutation, c'est le Gmar Hatima Tova. Puissiez-vous être scellés dans le livre de vie. Et le jour où il y a eu Pâques et qu'il y a eu la résurrection, cette résurrection a fait que les chrétiens ont dit « Réjouissez-vous, il est ressuscité. » Des deux boucs qui sont utilisés pour le sacrifice de Yom Kippour, pour le sacrifice d'expiation, un mort et l'autre vie. Au jour de Pâques, Christ mort et il ressuscite. Il est l'accomplissement parfait du jour du grand pardon. Mais il faut qu'il y ait un bouc qui meurt et un qui porte les péchés et qui reste vivant. Et qui aille, alors dans la traduction hébraïque, il dit qu'il aille pour Azazel. Alors c'est une traduction que les rabbins ont eu du mal à comprendre. Pourquoi est-ce que dans le Lévitique 16, il n'est pas dit que le bouc est envoyé vers Azazel ? C'est une traduction qu'on retrouve assez couramment, mais pour Azazel. Rashi, au XIe siècle, lui avait fait un autre choix. Il expliquait que, et je voyais ça en Afrique, ils ont une région où il y a des falaises et où les méthodes de chasse consistaient à pousser les troupeaux vers la falaise pour qu'ils tombent et afin que les hommes puissent récupérer les bêtes qui étaient tombées. Pour le bouc qui était envoyé vers Azazel, Azazel c'était une traduction du désert, de envoyé vers. Et donc, Rashi, au XIe siècle, disait ce bouc, il était envoyé vers une falaise pour qu'il meure et que les péchés sombrent avec lui dans sa chute et qu'ils disparaissent. Mais en fait, il est envoyé pour Azazel. Et lorsque Aaron choisit ces deux boucs, il y en a un qui a cette mission-là de partir avec les péchés vers ou pour Azazel. Certains ont imaginé que ce Azazel est souvent dans la littérature juive, mais aussi musulmane, parce qu'il figure aussi comme un personnage dans le Coran. Il est représenté comme le démon du désert, celui qui est dans le désert. Certains ont imaginé dans la tradition, je crois que c'est juive, que c'était un des anges gardiens de l'Éden et qui participé à la révolte contre Dieu. Bon, ce sont des récits, des traditions. Mais en tout cas, pour beaucoup, c'est un démon qui habite dans le désert. Et certains exégètes pensent que c'est cet Azazel qui est le démon qui a tenté Jésus-Christ dans le désert. Oui. Mais pour Azazel, pourquoi dans ce récit de l'expiation, un des deux boucs, on comprend celui qui est tué, parce que le salaire du péché, c'est la mort, donc il faut que quelqu'un meure. Mais pourquoi le second bouc doit-il être envoyé dans le désert ? Eh bien, pour beaucoup d'exégètes, ce « pour » Azazel, c'est de faire retourner le péché à celui qui en est l'auteur. C'est l'expression que j'utilisais la dernière fois, c'est « retour à l'envoyeur ». Celui qui a envoyé le péché vers l'humanité, c'est l'adversaire, c'est le Satan. Et dans l'œuvre du grand pardon, de l'expiation, ce bouc porte le péché du peuple et va le rendre à celui qui en est l'auteur. Une des interprétations aussi, et je pousse peut-être l'explication un peu loin, c'est que on retrouve dans le Nouveau Testament cette pensée que Christ est allé aux enfers pour prêcher l'évangile. Cette notion de prêcher l'évangile pose quand même beaucoup de questions. Comment est-ce qu'on peut prêcher l'évangile à ceux qui sont déjà morts? Puisque c'est quelque chose contre laquelle la parole de Dieu s'élève. Et je me dis, mais est-ce que ce n'est pas là aussi le déroulé de cette expiation, de ce bouc qui va dans le désert et qui apporte à l'adversaire ça, ce n'est plus aux hommes, le pardon de Dieu est passé, c'est à toi. Et est-ce que le fait que Christ aille aux enfers, ce n'est pas une manière aussi de remplir ou d'accomplir cette pensée du bouc qui est envoyé vers Azazel? C'est une interprétation personnelle, mais j'aime bien que les images qui sont dans l'Ancien Testament collent avec ce que nous dit la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. Alors, Azazel, c'est l'acte du renvoi du bouc dans le pays de la solitude. Azal, en hébreu, c'est éloigné. Azazel, Azal, éloigné. Et ça traduit aussi une traduction hébraïque qui dit pour le complet éloignement, sous-entendu des transgressions. Ça veut dire que le bouc qui porte le péché d'Israël est envoyé le plus loin possible pour un complet éloignement. C'est-à-dire, il est le plus loin possible, ça ne peut pas aller plus loin. Ça veut dire que quelque part, quand nous sommes au bénéfice de l'expiation de Christ, notre péché est éloigné de nous, et je dirais même qu'il est éloigné du regard de Dieu. Je suis triste souvent de voir comment certains chrétiens peuvent continuer à porter le remords ou la tristesse de leurs fautes passées, alors que l'œuvre d'éloignement du péché accompli par Christ à la croix est un éloignement total, un complet éloignement. Dieu ne le voit plus. Et je dis, mais pourquoi est-ce que nous continuons à porter le poids de nos fautes? Est-ce que ce n'est pas, alors je vais être un peu violent, est-ce que ce n'est pas du péché? Puisque c'est une forme de négation de ce que Christ a accompli à la croix. Tu n'as plus à porter le poids de tes fautes. Tu n'as plus à te sentir coupable. Combien d'hommes et de femmes continuent à porter la culpabilité de ce qu'ils ont été ou fait? Alors que l'œuvre de Dieu, c'est un complet éloignement. Le péché est porté par le bouc vers Azazel. Reprends-le, c'est à toi. Et il y a des hommes qui disent, oui, mais c'est encore un petit peu à moi. Et ça, c'est l'œuvre de l'adversaire. Continuer à nous sentir coupables, incompétents dans la justice de Dieu qui nous est accordée. Ah! Le sentiment d'incompétence. Moi, c'est quelque chose contre lequel j'ai dû me battre longtemps. Penser que je suis incompétent, que ce qui a été fait pour moi n'est pas parfait ni total. Cet apax legomenon d'Azazel, c'est quelque chose qui nous parle de la qualité de l'œuvre de Christ et de la rédemption qu'il nous accorde. Si tu es ce matin encore avec un regard sur toi-même, qui garde sur ta vie la culpabilité ou le sentiment d'incompétence lié à ton passé, etc., laisse le Saint-Esprit, pas moi, mais laisse le Saint-Esprit te convaincre que tout ce que tu as vécu totalement et complètement éloigné et de ta vie et du regard de Dieu. Le second apax legomenon se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 49 et verset 10. On est là dans un contexte particulier puisqu'on voit Jacob qui est en train de mourir et qui transmet une vision des temps de la fin. Et vraiment, c'est quelque chose, moi, je vous invite à reprendre ce chapitre 49 de, de la Genèse. Je vais essayer de le reprendre aussi entièrement pour que vous puissiez, parce que c'est une bénédiction. Nous, on le lit comme une comme quelque chose qui est uniquement lié aux 12 tribus d'Israël. Mais c'est très limité comme vision des choses. Le chapitre 49 commence par « Jacob appela ses fils et dit « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans les jours à venir. » C'est-à-dire que c'est, quand on annonce quelque chose, des choses à venir, c'est ce que nous a fait Eden ce matin, voilà ce qui va arriver, c'est ma conviction, le Seigneur me l'a déposé sur le cœur. Bah, Jacob a fait la même chose, il dit à ses fils « Voilà ce qui va arriver. » C'est donc un acte prophétique. Et lorsqu'il parle à ses 12 fils, il dit ceci à son fils Judas. Ah tiens, j'ai oublié, je dois avoir sur le bureau une petite présentation de 3 diapositives sur les Apax Legomenon, et notamment sur le premier, on l'a passé, mais on doit avoir le deuxième. Je te laisse chercher, tu l'affiches dès que tu l'as trouvé. Et concernant Judas, il est dit, est un jeune lion. Et après, au verset 10, il est dit, le bâton de commandement ne s'écartera pas de Judas, ni l'insigne du législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Le Shiloh, c'est le seul et unique endroit dans la Bible où il en est question. C'est donc je vois que tout le monde suit, un Apax Legomenon. Écrivez-le. Prenez des notes. C'est le seul endroit, vous le trouvez nulle part ailleurs. Alors on se dit, mais c'est quoi cette histoire de Shiloh? Alors, S-H-I-L-O ou C-H-I-L-O, vous l'écrivez comme vous le voulez. Mais il est parlé ici de quelqu'un qui aura le bâton souverain entre ses pieds et jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. On ne peut pas penser qu'il s'agisse ici uniquement de Judas et même de sa famille ou de sa tribu. Étymologiquement, le Shiloh est traduit de sa racine Shalom. Et c'est pour ça que dans certaines des traductions, vous avez jusqu'à ce que le pacificateur revienne. Ah, tiens, c'est intéressant ça, le pacificateur, celui qui va apporter la paix. Voilà, tu peux envoyer la première diapo, c'était sur le premier, voilà, c'était donc, je ne sais pas si tu peux me mettre en plein écran, voilà, c'est le Azazel, premier Apax Legomenon, Azazel, avec une peinture de... Tu peux mettre le nom du peintre qui est en bas, là. Voilà. William Holman Hunt, qui n'est pas n'importe qui, puisque c'est le fameux peintre qui a écrit « Je me tiens à la porte et je frappe, et celui qui ouvrira, etc. » Vous vous rappelez cette peinture? Ben, c'est le même qui était un peintre qui s'est converti au protestantisme, qui en 1900, là ça doit être une peinture de 1856, et celle de Christ qui frappe à la porte, c'est 1904. Et j'aime bien, moi, cette image du bouc émissaire qui est envoyé dans le désert, comme quoi il avait une vision de la rédemption qui était très profonde. Et la deuxième diapo, c'est celle dont je parle en ce moment, c'est cette prophétie de Jacob sur son lit de mort concernant Judas. Et le Shiloh, c'est celui qui est le pacificateur et par extension, le prince de paix. C'est Rashi, toujours, que j'aime bien. Je regarde David parce qu'il connaît tout cela. Rashi, au XIe siècle, qu'il traduira par celui à qui appartient la royauté. Alors on voit que le mystérieux Shiloh dont il est question ici, c'est une expression messianique, une annonce du Christ, et par-delà, la rédemption. Ça veut dire que lorsqu'il regarde son fils Judas, Jacob a une vision messianique de ce qui va advenir. Alléluia ! Il est mourant, il rassemble ses 12 fils, et dans cette prophétie, c'est à Judas qu'est promis le sceptre, l'autorité, jusqu'à ce que le Shiloh vienne, le pacificateur. Nous savons que la royauté d'Israël passe par la tribu de Juda, selon cette prophétie, et le roi David est issu de cette lignée-là. Ruben, l'aîné, a été mis à l'écart. Et la lignée de Juda annonce déjà la venue de David et aussi une prééminence jusqu'à ce qu'arrive celui qui est annoncé. Salomon, c'est pareil, même racine. Shalom, shala, être en paix, repos, d'où le nom de pacificateur. La Vulgate, qui est la traduction latine de l'Ancien Testament, traduit par shala, celui qui est envoyé. C'est aussi une traduction intéressante. Christ est celui qui a été envoyé. Me dit des milliers d'années, enfin des centaines et des centaines d'années avant que le Christ naisse, que David naisse, etc., etc., eh bien, il y a cette pensée dans le cœur de Jacob. Voici jusqu'à ce que celui qui doit être envoyé arrive pour apporter la paix. Parce que la question de la rédemption, ce n'est rien d'autre que de rétablir une relation de paix entre Dieu et les hommes. Il n'y avait plus de paix à cause du péché. Voici qu'il arrive, qu'il revient, ce pacificateur qui accomplira l'œuvre, qui permette le retour de la paix dans cette relation. Le Shiloh viendra, le Messie viendra. C'est donc, en ce qui concerne le Shiloh, l'accomplissement final de cette prophétie. Jacob dit, voici, je vous annonce ce qui va arriver. Dans certains textes de Qumran, Shiloh est traduit. Qumran, c'est les manuscrits qui ont été trouvés au XXe siècle dans des jarres, etc., avec des textes très très anciens. Et il y avait un passage de la Genèse, et il dit, en fait, dans ces manuscrits, Shiloh est traduit par Messie légitime ou Messie de justice. Parce que des messies, il y en a eu en Israël. Du temps de Jésus, Bar Corba, etc., il y a eu plein de messies ou d'hommes qui ont été pris pour des messies. Mais juste, disait le texte de Qumran, jusqu'à ce que vienne le messie légitime, le vrai, le réel. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton de chef d'entre ses pieds. On imagine que c'est un bâton qui prenait appui sur le sol et qui était un signe d'autorité, un signe royal. Et il est dit ici, dans ce texte, dans cette pensée du Shiloh, qu'il dominera d'une mer à l'autre, comme le dit le psaume 72,8, et depuis le fleuve jusqu'au bout de la terre. Alors quand on voit cela, on se rend compte que finalement, il est question d'une domination de la terre tout entière. C'est ce qui est prévu pour Christ. Un jour, toutes les nations plieront le genou devant lui. Le Shiloh reviendra. Alléluia, alléluia. Alors, vous disiez, tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. Hein. En hébreu, le Shiloh, en hébreu, ça donne aussi Sheil. Et Sheiloh, ce qui signifie « à lui les présents et les dons ». Vous vous rappelez ce passage en Matthieu où il est dit au chapitre 2, verset 2, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Et les mages d'Orient qui sont des non-Juifs, des gens des nations, viennent adorer le roi des Juifs. Ils lui apportent des présents. Au verset 11, ils entrèrent dans la maison, trouvèrent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils l'adorèrent. Puis ouvrant leur trésor, ils lui offrirent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. En hébreu, Shiloh, c'est aussi décliné par Shiloh, des présents, des cadeaux, des dons. Moi, j'aime bien ce lien entre la Genèse et l'évangile de Matthieu et de voir la cohérence de la parole qui annonce l'œuvre de la rédemption en Jésus-Christ. Alors, l'Urim et le Thummim, vous me direz, c'est pas tout à fait un apax legomenon, puisqu'il en est parlé à de nombreuses reprises. La présentation dans le livre de l'Exode de l'Urim et du Thummim. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours posé un problème, l'Urim et le Thummim, parce que lorsqu'il est présenté le costume du souverain sacrificateur, il a une poche, il a l'Urim et le Thummim. Im en hébreu, c'est toujours une forme de pluriel. On se dit, tiens, alors, il y a l'Urim, c'est déjà plusieurs choses, et le Thummim, c'est déjà encore, ce serait de plusieurs objets, Urim et Thummim. Et je me suis un petit peu intéressé à cela, parce que quand j'étais jeune, je me suis dit, mais c'est quoi ces objets qui servent à jeter un sort et à faire jouer le hasard? Comme si Dieu, finalement, se déchargeait en disant, bon, je ne sais pas trop ce que je peux vous dire, donc jetez les trucs et puis vous verrez bien ce qui se passe. Et moi, ça ne me semblait pas cohérent avec la personne de Dieu. Que Dieu, tout à coup, dise, ouais, bah, faites comme vous voulez, là, jetez les dés et puis on verra bien après. Et en fait, on s'aperçoit que, là encore, Urim et Thummim, tu peux envoyer la troisième diapo, la dernière, Urim et Thummim, vous avez ici un logo, pas n'importe quel logo, ça devrait plaire à Michel, à David aussi peut-être, mais Michel, ça devrait te plaire, ça te dit quelque chose? Je parle à Michel Echoum. Ça te dit quelque chose, non? Ouais, mais comme logo, non? Pas plus? Alors, en fait, vous avez Urim à droite et Thummim à gauche. Et donc, on est bien sur l'Urim et le Thummim. Et la traduction en latin, luxe et vérité, ce qui est à peu près une des traductions de l'Urim et le Thummim. Et déjà, quand on voit cette traduction d'Urim et Thummim, on se dit, ah bah oui, on n'est pas sur quelque chose qui s'appuie sur le hasard, mais quelque chose qui doit permettre de mettre de la lumière et de la vérité au choix qu'on a à faire. Alors, moi j'aime beaucoup cette traduction, parce que ça permet d'éviter de mettre des dés à jouer en se disant, bah c'est ça, l'Urim et le Thummim, c'est quelque chose comme ça. Non, c'est lumière, et ça renvoie à Christ, qui est lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme, dit Jean au chapitre 1, verset 9. Donc l'Urim et le Thummim, c'est la lumière de Dieu qui vient éclairer des choix. Et ça a été choisi, je crois que c'est en 1701, comme symbole d'une université qui a été créée aux États-Unis, 1701, c'était pas hier, hein, 1701, pour former les pasteurs congrégationalistes. Donc, pas mal comme choix. Et en fait, ce logo-là, c'est le logo de la deuxième université la plus riche au monde. C'est pas là que tu as été, Michel? Non? Non? Ah non, excuse-moi, j'ai confondu. Yale, aux États-Unis. Tu l'avais Non, c'était ce que tu pensais? Yale aux États-Unis, deuxième université la plus riche au monde. Et à leur origine, ils formaient des pasteurs. Et ils ont choisi ce logo, Urim et Thummim. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, ça ne peut pas être uniquement que des objets de hasard. Lumière, alors c'est lumière, vérité, ou lumière et perfection. Et en fait, cette traduction de la Septuante, nous... montre qu'il s'agit d'objets qui servent à exprimer la lumière et la perfection de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, entre guillemets, passe aussi par ce que nous, on prend pour du hasard. Et le rituel du tirage au sort était courant, hein, puisque c'était même quelque chose que Dieu... proposé en disant, bah, quand vous serez dans telle ou telle situation, utilisez le tirage au sort. Je reviens à la Pax Legomenon qui est Azazel et les deux boucs. Vous avez deux boucs, Aaron doit en amener deux. Et qu'est-ce qu'il est dit? Tu tireras un sort sur ces deux boucs. L'un sera tué et l'autre sera envoyé dans le désert. Il ne l'a pas fait n'importe comment. Il a sorti l'Urim et le Thummim pour tirer au sort celui qui allait mourir et celui qui serait envoyé dans le désert. L'Ourim, certains pensent que c'était deux pierres de sardoine qui étaient dans une pochette, dans le pectoral, près de l'épaule du souverain sacrificateur. Et quelque part, il est dit dans la Bible qu'il était sur le cœur, dans le pectoral, sur le cœur du souverain sacrificateur. Ça veut dire que quelque part, la pensée de Dieu, le choix de Dieu, le sort de Dieu, ce n'est pas lié à un hasard comme ça, total, où Dieu sera absent. Il est sur le cœur du souverain sacrificateur. Ouais, j'aime bien cette pensée. Et donc, ces deux pierres de sardoine et le Toumim auraient été composés. Ça, c'est Flavius Joseph qui en parle dans son fameux livre « Les Antiquités juives ». Et c'était un contemporain de Jésus, Flavius Joseph. Et il dit, lui, que le Toumim, dans la tradition de son époque, c'était 12 pierres d'une taille et d'une beauté extraordinaire. Et donc, chaque pierre avait le nom d'une tribu gravée dessus. Elles étaient dans le pectoral. Et l'explication de Flavius Joseph, c'est que quand on les jetait, il y avait une couleur ou des reflets particuliers qui faisaient que ça donnait le sens ou l'orientation que Dieu voulait donner à ceux qui jetaient et qui étaient responsables. Alors ça, c'est des explications. Il est dit qu'après la Pentecôte, on n'a plus jamais entendu parler de l'Ourim et du Toumim. Vous savez pourquoi ? Personne ne l'a... Non, on ne les a pas perdus, non. Ben, on n'en avait plus besoin parce qu'il y avait le Saint-Esprit. Et quelque part, les Juifs ont vu ces outils disparaître, mais je pense que c'est comme le temple de Jérusalem qui disparaît en 70, il n'y a plus de raison d'être. Le Saint-Esprit est là. Et vous savez quoi ? Le Saint-Esprit est dans notre cœur pour que nous puissions trouver le chemin de Dieu. Alors, je me disais, le tirage au sort, j'imaginais que j'étais un des deux boucs devant la tête d'assignation, la tente d'assignation, avec Aaron qui pose sa main sur nous, sur moi, puis sur l'autre. Et puis moi, je suis le bouc, un des deux boucs, et je dis, Seigneur, pourvu que le tirage au sort me soit favorable, pourvu que le tirage au sort... Moi, je pense toujours à celui qui va se faire... Et puis l'autre qui va aller dans le désert, dit, bon, ça va être dur, mais je préfère. Tirage au sort, ça, c'est quelque chose qui me dérangeait. Et en fait... Je me demande que si finalement notre conception du tirage au sort n'est pas une conception qui exclut Dieu en se disant « Ah, c'est le fruit du hasard ». Mais en fait, est-ce qu'il y a vraiment un fruit du hasard ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Quelque part, il y a cette pensée dans la Bible que au moment où il y a des choses qui arrivent et qui nous semble être lié au hasard, en fait, il s'agit tout simplement pour Dieu de montrer la direction et que nous soyons un peu dégagés de certaines choses, mais qu'après coup, on se dise, en regardant par-dessus notre épaule, « Ah, mais c'est Dieu qui l'avait voulu, c'est Dieu qui m'avait conduit. » Je suis certain que si je vous posais la question, il y a des choses que vous avez vécues dans votre vie et que vous vous êtes dit, ouais, c'était à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Ouais, heureusement que j'ai pris cette route-là. Heureusement que j'ai fait cette rencontre. Heureusement que j'ai pris cette décision. Et puis, finalement, est-ce que c'est tant le fruit du hasard que cela ? Il y a plusieurs exemples dans la Bible, je ne vais pas vous... Mais il y en a un que j'aime beaucoup parce que j'ai souvent lu. Dans le livre de Ruth, vous vous rappelez, Ruth, on est dans l'histoire de la rédemption, en plein. Hein, puisque c'est une des ancêtres du roi David, parce qu'elle a fait des choix. Quand Ruth arrive à Bethléem, elle décide d'accompagner sa belle-mère, de s'installer, d'aller dans des chemins qui ne sont pas forcément les plus faciles pour elle, mais elle retourne en Israël. Et il est dit que pour subsister, elle va aller glaner dans les champs. Vous vous rappelez cette scène ? Et voici qu'il est dit dans Ruth, chapitre 2, verset 3, qu'elle va glaner dans le champ d'un type qui s'appelle Boaz. Oh, le hasard quand même ! Oh, le hasard ! Est-ce que Dieu ne vous a pas conduit aussi de cette manière-là ? Et vous dites, mais si j'avais pris un autre chemin, est-ce que j'aurais pu vivre la bénédiction et la grâce de Dieu ? Le hasard, c'est Einstein qui disait que le hasard, c'est Dieu qui avance incognito. J'aime beaucoup cette formule. Je ne sais pas si elle est vraiment de Einstein, mais je l'aime bien. Le hasard, c'est Dieu qui avance incognito. Par hasard, Ruth se retrouve dans le champ de Boaz et elle va se marier avec lui. Elle va entrer dans la lignée du peuple juif, etc. etc. On a vu comment Rahab a accueilli dans la prédication de Francine. Voilà, je suis long là. Je suis long. Le hasard n'existe pas. C'est Dieu qui conduit toutes choses. Dieu reste finalement maître en toutes circonstances. Alors, j'aimerais juste terminer. Dieu reste maître des circonstances et tous les apax, les goménones qui nous semblaient surprenants, étonnants, que ce soit Azazel, que ce soit, ce qu'on a vu après, les l'Urim et le Tumim, etc. Ce sont toujours des choses où Dieu veut révéler l'œuvre de la rédemption. Alors ce matin, je ne sais pas, est-ce que vous avez vu la hache tournoyer, fendre l'air et l'aile s'ouvrir pour conduire jusqu'à Dieu? Moi, j'aime beaucoup cette phrase. Alors reprenez l'écriture, lisez-la, nourrissez-vous de ce qui nous semble mystérieux, mais qui conduit toujours à un seul objectif, révéler Christ et sa rédemption. Amen. Excusez-moi, j'ai été très long.